À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Souleyman Bachir Diagne, je suis philosophe à Columbia University.
Troisième épisode, penser avec, penser contre. Bonsoir Souleyman Bachir Diagne.
Bonsoir Caroline Brouet.
Hier, on a parlé de vos études à Paris, notamment, de vos débuts de professeur à Dakar au début des années 80. J'aimerais ce soir qu'on s'arrête sur trois figures de penseurs, trois compagnons aussi, puisqu'ils vous ont accompagné tout au long de votre parcours et qu'ils ont nourri votre philosophie, des penseurs auxquels vous avez consacré au moins un livre en 2011, qui a été réédité en 2020, un livre intitulé « Bergson postcolonial, l'élan vital dans la pensée » de Louis Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal. On a les trois figures là, Bergson, Iqbal, Senghor. C'est important de parler de ces trois figures parce que je pense qu'on ne les connaît pas si bien que ça. Senghor, en ce moment, on en parle beaucoup. Quand je dis en ce moment, c'est au début de cette année 2023, puisqu'une grande exposition lui est consacrée, Senghor et les arts. Une grande exposition lui est consacrée au musée du Quai Branly à Paris, toute cette année 2023. Bergson est une figure de philosophe. Si on n'a pas fait d'études philosophiques, on ne le connaît pas. Et Mohamed Iqbal, vous allez nous en parler, est une figure méconnue également en France. Alors déjà, que vous ont apporté, vous, ces penseurs? En quoi ont-ils nourri votre propre philosophie?
Pour Iqbal, j'ai dit et j'aime à répéter que l'importance qu'il a eue pour moi, c'est de m'enseigner ce qu'était ma propre pensée. Quand j'ai commencé à enseigner au Sénégal, à un moment donné, nous avons décidé d'enseigner l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Ça s'imposait à nous. Il nous semblait important, en effet, étant un pays musulman aussi massivement, au Sénégal, 95% de la population est musulmane, d'enseigner qu'il y avait une tradition de philosophie, une tradition rationnelle, voire rationaliste, une tradition sceptique, questionnante, dans le monde de l'islam, et je me suis chargé de la tâche. Je n'étais pas nécessairement un spécialiste de cet enseignement, j'étais le plus proche de l'être, donc j'ai accepté de m'en charger. L'idée était que quand on aurait un vrai spécialiste, il me remplacerait. Le vrai spécialiste n'est jamais venu, et j'ai pu de mieux en mieux imiter les vrais spécialistes. Et Iqbal était un des auteurs que j'ai décidé d'enseigner. Je connaissais peu, j'avais lu quelques petites choses de lui ici et là, toujours dans la bibliothèque de mon père, qui est une sorte de légende dans mon existence. Et quand j'ai décidé d'enseigner Iqbal, ça a été pour moi une vraie révélation. Ce penseur, poète et homme d'État indien, qui a eu une très grande importance, qui a toujours une très grande importance dans le sous-continent indien. Iqbal est le poète, le penseur du sous-continent indien. Donc, il est né en 1877, il est mort en 1938, donc avant les indépendances séparées de l'Inde et du Pakistan.
Et pourtant, il est considéré comme le père fondateur du Pakistan.
Il est un peu le père fondateur, le père spirituel du Pakistan, parce que dans un discours resté fameux en 1930, il a dit qu'il était important qu'au sein de l'ensemble indien, donc il n'a pas parlé d'indépendance à proprement parler, les régions à majorité musulmane fussent autonomes de manière à ce que la population la plus importante, après l'Indonésie, du monde musulman, indique la voie d'un renouveau de la pensée islamique. Il estimait que l'Inde, de ce point de vue-là, les musulmans indiens avaient une responsabilité particulière à une époque où il trouvait que la pensée musulmane avait besoin d'être reconstruite. Donc c'était un penseur moderniste. Et donc les régions qu'il évoquait ainsi, en disant que ces régions-là devaient avoir une certaine autonomie, correspondent exactement à l'état du Pakistan et l'état du Bangladesh. Par conséquent, voilà pourquoi il est considéré comme le père fondateur de ces états-là, encore que personne ne peut savoir s'il aurait voulu véritablement que ce soit une indépendance séparée de l'Inde. On ne saura jamais, mais le plus important, c'était sa pensée. C'était une vraie pensée réformiste et une pensée qui avait rencontré celle de Henri Bergson. Et d'ailleurs, les deux se sont rencontrés physiquement à Paris. Iqbal est venu rendre visite à Bergson à Paris et ils ont eux-mêmes constaté l'affinité profonde entre leurs deux démarches.
Alors qu'ils ne venaient pas du même monde, là.
Ils ne venaient pas du même monde. Donc, lisant Iqbal et bientôt lui consacrant un livre, parce que mon enseignement de la philosophie d'Iqbal est devenu le livre que je lui ai consacré, qui s'intitule « Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement dans la pensée de Mohamed Iqbal ». Et donc, Bergson était très présent dans cet ouvrage.
Vous avez découvert Bergson par Iqbal ou vous étiez déjà un familier de la lecture de Bergson?
J'étais déjà un familier par mes études de Bergson. Et en particulier, d'ailleurs, j'avais lu Bergson au moment de l'agrégation. C'est un passage obligé. Bergson est inévitable, fort heureusement, fort heureusement. Et donc, je connaissais Bergson. Mais j'ai connu ce Bergson-là, le bergsonisme, d'un philosophe penseur musulman comme Iqbal et la rencontre qu'il effectue entre sa manière de lire le Coran, la cosmologie coranique et la philosophie de l'élan vital de Bergson.
Qu'est-ce que c'est la philosophie de l'élan vital?
Alors la philosophie de l'élan vital, c'est l'idée que le monde est en état d'émergence continue. Il y a une force cosmique, une force vitale, la force de vie qui habite le monde et qui produit le monde et qui continue de le produire. Donc le monde n'est pas une création achevée une fois pour toutes, c'est une création continue avec une force de vivre qui est à l'œuvre dans ce monde. C'est la théorie de l'évolution, si vous voulez, c'est la philosophie de l'évolution. Et Iqbal, lisant Bergson, dit « Mais au fond, si on veut comprendre la cosmologie du Coran, il faut la comprendre aussi comme une cosmologie de la force de vivre, de l'élan vital. » Et il a cette lecture tout à fait nouvelle et très moderne de l'islam. Ça lui permet de conclure qu'il est important aujourd'hui pour l'islam, aujourd'hui à son époque, donc au début du XXe siècle, pour l'islam, qui a connu, selon lui, une sorte de pétrification dans sa pensée à partir du XIIIe siècle, de retrouver le principe de son propre mouvement et de pouvoir, en quelque sorte, manifester la modernité dont cette religion est porteuse et qui, pour lui, a été bloquée en cours de route. Et c'est cela qui était important pour moi, c'est la raison pour laquelle je dis que Iqbal m'a appris ce que je pensais moi-même. En tant qu'intellectuel musulman, m'intéressant à ma propre religion, à la tradition philosophique et spirituelle qu'est cette religion, je me suis dit, voilà. Voilà comment il faut penser la religion islamique aujourd'hui. Et donc, j'ai fait ce retour en travaillant Iqbal, en présentant sa pensée dans cet ouvrage, j'ai fait un retour différent à la pensée de Bergson. J'ai vu ce qu'elle donnait lorsque, dans cette rencontre avec un philosophe du monde colonial, du monde indien, un philosophe musulman attaché à penser une revivification, pour ainsi dire, de l'islam et une modernisation de la pensée islamique. Et
ça veut dire aussi sortir le Coran, sortir l'islam, la religion musulmane, d'une vision refermée sur elle-même, peut-être même carcérale, enfermée et peut-être même traditionnaliste, intégriste, fondamentaliste, vous iriez jusque-là? C'est la sortir de cette gangue pour l'ouvrir dans le mouvement du monde?
Exactement. Réconcilier l'islam avec son propre mouvement et qui s'identifie au mouvement du monde. Et par conséquent, effectuer cet aggiornamento. Alors, le mot qu'il emploie, c'est le mot de reconstruction. Le titre de son ouvrage majeur qu'il publie en 1930 et qui est d'abord une série de conférences qu'il donne en Inde, dans les universités indiennes, pour réveiller en quelque sorte la jeunesse indienne. Son titre, c'est un titre en anglais, il écrit en anglais celui-là, « The Reconstruction of the Religious Thought in Islam », la reconstruction de la pensée religieuse de l'islam, ouvrage qui a été traduit en français en 1955 par Eva Meirovitch et qui a été retraduit il n'y a pas longtemps par Abdennour Bidar en français de nouveau. Eh bien, ce mot de reconstruction est très important parce qu'en effet, Iqbal dit que l'islam a été une religion ouverte, une religion dynamique, et là j'utilise des concepts qui sont des concepts de Bergson. Bergson oppose des morales, une morale close à une morale ouverte et une religion close à une religion dynamique. Et c'est au fond dans ces termes aussi que s'exprime Iqbal. Et Iqbal d'ailleurs s'exprime en ces termes-là au moins 2 ans avant que Bergson écrive son livre sur les deux sources de la morale et de la religion. Mais vous voyez ce que j'ai appelé une affinité entre leur manière de voir. Ils sont tous les deux du côté de la société ouverte, du côté de la religion dynamique, de la religion ouverte, en évolution constante, et non pas une religion pétrifiée, fermée sur elle-même, avec une morale close, où on considère que le temps, c'est l'ennemi. On considère que la religion était parfaite au début et que le temps ne peut apporter que de la détérioration, parce que plus le temps avance, plus on s'éloigne des origines que l'on mythifie beaucoup. Et donc, on a le sentiment que le temps est l'ennemi de la perfection. Alors que le renversement qu'effectue une cosmologie ouverte, l'idée d'une société ouverte, l'idée d'une religion dynamique, c'est de dire non. Le temps n'est pas l'ennemi, c'est au contraire la condition de possibilité et de déploiement des significations les plus riches de la religion, etc. Bref, c'est ce que j'ai découvert avec cet auteur. Et comme je l'ai dit, il m'a semblé que je tenais là, véritablement, la manière dont je devais penser moi-même, la religion qui était la mienne, celle dans laquelle j'avais grandi, et ce que devait être sa place et son rôle dans le monde d'aujourd'hui où nous vivons, surtout à un moment donné, ou à un moment où l'islam a très mauvaise presse en Occident, par exemple, où on ne pense pas à l'associer à la riche tradition intellectuelle et spirituelle qu'elle est. Et Iqbal me semblait être ce retour à la signification première de la religion dans son jaillissement dynamique, dans sa signification d'ouverture, dans son acceptation du pluralisme, toute chose qui était pour moi très importante. Et donc, voilà le retour qui a été fait à Bergson et à Iqbal.
Je voudrais juste m'arrêter sur cette philosophie de l'islam qui est la vôtre et qui peut-être se heurte à un certain nombre de faits, en tous les cas d'interprétations de l'islam, beaucoup moins ouverte sur le monde d'aujourd'hui qui est la vôtre, et dont témoigne une controverse que vous avez menée avec le philosophe catholique Rémi Brague, le dit catholique, parce qu'il est attaché à cette idée, et en particulier à l'idée des racines chrétiennes de l'Europe, et il est réputé pour sa critique de l'islam, puisqu'il considère qu'il y a une irrationalité inhérente à l'islam. Donc Rémi Brague, vous avez eu une controverse qui a donné lieu à un livre, paru en 2019, un dialogue sur l'islam et sur les questions qui fâchent, animé par Michel Etchaninov. Est-ce que vous pourriez nous donner, en quelques mots, Souleyman Bachirdian, les tenants et les aboutissants de cette discorde entre vous ?
Oui, alors vous l'avez dit, Rémi Brague, qui a enseigné l'islam, qui connaît l'islam, qui est un érudit, qui est un grand philosophe, a en effet les positions que vous venez de décrire concernant l'islam. Et nous avons décidé, c'est un projet qui a été porté par Michel Etchaninov, qui nous connaît tous les deux, et qui a pensé que nous pourrions faire un livre ensemble où nous mettrions à plat nos positions et effectivement où nous confronterions nos positions sur les différents sujets qui fâchent. Est-ce qu'il y a une relation intrinsèque entre l'islam et la violence ? Est-ce que c'est une religion de la violence ? Est-ce que c'est une religion fanatique ? Toutes sortes d'idées d'ailleurs qui ne sont pas nouvelles. En réalité, ce qui s'est passé, la tragédie du 11 septembre, les attentats, etc., ça a ravivé de vieilles conceptions de l'islam, mais qui avaient été toujours là. L'idée que c'était une religion de fanatique, vous la trouvez chez Voltaire, vous la trouvez même plus anciennement chez Pierre le Vénérable au Moyen-Âge, c'était parce que l'islam a toujours été d'une certaine façon l'autre de l'Europe, de ce point de vue-là. Autant on s'affirmait rationaliste et rationnel, on disait que l'autre était lui mystique et fanatique, voilà. Donc à chaque fois, il y avait cette relation en miroir, si vous voulez. Mais il était important, en effet, dans une époque comme la nôtre, de s'asseoir entre philosophes qui avons des visions et des expériences différentes, radicalement opposées d'ailleurs de l'islam, pour parler ensemble. C'est la meilleure manière, au fond, de faire. C'est la meilleure démarche. On peut être sur des positions très opposées, c'était notre cas, avoir des points de vue absolument contradictoires, c'était également notre cas, et parler le même langage, ça veut dire partager un même espace de discussion, mettre les mêmes réalités sous les mêmes mots, et arriver ou à des consensus sur des points de consensus, ou bien à, en tout cas, indiquer de manière très précise et très claire quelles différences sont les nôtres. Et il était évident que Rémi Brague et moi-même n'étions d'accord sur à peu près rien. Mais en revanche, vous savez, c'est une conversation, c'est un dialogue qui s'est passé dans des conditions absolument parfaites. Nous avons l'un et l'autre, je dirais, nous partageons le même sens de l'humour. Peut-être une certaine culture normalienne que nous avons en partage permet ce genre d'attitude et ce genre de posture où on peut discuter et être en désagrément sans être désagréable. Et je pense que cela est manifeste dans l'ouvrage que nous avons coécrit. Et il s'agissait pour moi non pas de défendre l'islam. L'islam est à lui-même son propre argument. Il n'a pas à être défendu par moi. Mais il fallait expliquer. Comme le professeur de philosophie islamique que je suis devenu, il fallait expliquer la nature de cette tradition intellectuelle et spirituelle, ancienne, plus que millénaire, et qui est également la religion de plus d'un milliard et demi d'individus aujourd'hui, et de l'expliquer d'abord à moi-même, l'expliquer aux jeunes musulmans, c'était un exercice dont il me semble qu'il a été utile, parce que sur les différents sujets, étant donné les positions opposées qui étaient les nôtres, je crois que nous sommes allés au fond des choses dans cette controverse qui était la nôtre, et qui était une controverse également très agréable entre gens de bonne compagnie, disons.
Alors, arrêtons-nous maintenant sur le troisième homme de ce triangle, vous appelez le triangle bis.
Oui, Darsan Iqbal Senghor.
Voilà. Et donc, Léopold, c'est Darsan Gore que nous connaissons comme le poète président. C'est quand même souvent comme ça qu'il est présenté, président de 1960 à 1980. Il, d'ailleurs, fait le même lycée que vous, avant vous, puisque c'est là qu'il a obtenu son bac. Vous lui avez consacré plusieurs livres, hein, déjà. Il y a celui que j'ai cité tout à l'heure, Bergson postcolonial, avec les deux autres. Bon, on pourrait en citer d'autres. Déjà, quel rapport entretenez-vous avec l'homme, avec ce qu'il a représenté pour vous, pour le pays et pour le monde?
Mes rapports avec lui ont beaucoup changé. Je vous l'ai indiqué lorsque je suis devenu normalien. Il m'a fait venir quand je suis rentré au Sénégal et m'a reçu très très gentiment. Et ça a été le début de nos relations parce que ces relations, il les a maintenues. Ça n'a pas été simplement faire venir le jeune compatriote pour le féliciter et faire la photo correspondante, etc. Il a vraiment été attentif à ce que j'allais faire et devenir. Une chose que je ne pense pas l'avoir dite dans mon livre. Quand nous avons eu cette conversation, il m'a expliqué pourquoi, selon lui, il n'était pas entré à l'école normale. Il avait passé le concours, il avait fait élu de grand et il n'avait pas finalement réussi au concours. Il me disait, j'étais trop spécialisé déjà dans les lettres classiques, j'étais vraiment en latin, grec, et donc les autres disciplines je n'étais pas au même niveau dans les autres disciplines que celui qui était le mien dans les disciplines classiques. Et donc nous avons bavardé très gentiment. Et au terme de notre conversation, lorsqu'il m'a raccompagné, il m'a dit deux choses. D'abord, qu'il était content que je sois, en quelque sorte, le fruit de sa politique éducative. Il l'avait dit en souriant, comme s'il n'en était pas sûr, et moi, je lui avais dit très sérieusement, en effet, Monsieur le Président, je suis véritablement le fruit de votre politique sur ce plan-là. La deuxième chose, alors, absolument admirable, il m'a dit, écoutez, je vais augmenter votre bourse, parce que comme j'étais sénégalais et pas français, alors j'étais normalien, mais je n'étais pas un fonctionnaire français, je n'allais pas être salarié de la France, et donc j'avais la bourse que j'avais, et Senghor a décidé qu'il allait augmenter ma bourse avec ses propres fonds politiques, et il m'avait dit, parce que je connais les normaliens, la vie normalienne, ils vont sortir, je n'aimerais pas penser que vous ne pouvez pas mener la même vie que vos camarades parce que vous n'aurez pas assez d'argent. Cela m'avait ému aux larmes qu'il ait dit cela. En d'autres circonstances, j'aurais refusé cela. Il m'a semblé que là, c'est... d'autant qu'il m'a dit, vous savez, c'est le meilleur usage que je puisse faire de mes fonds politiques. Et donc, voilà une chose qui vous indique quelle a été la nature de mes relations avec le président Senghor à ce moment-là. Le plus drôle, si je puis dire, c'est que j'étais, à l'époque, opposé à sa politique. J'étais...
Vous êtes anti-singorien, oui, en philosophie et en politique.
Mais oui, parce que comme beaucoup de philosophes, je trouvais que la négritude, qui était la philosophie dont il était porteur, avec Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et d'autres, les sœurs Nardal, Suzanne Césaire, je trouvais que c'était un contre-essentialisme contre le colonialisme et j'étais pas d'accord avec des formules, les formules qu'on cite et qu'on reproche à Senghor en général, voilà. Ça, c'est sur le plan philosophique. Sur le plan politique, j'estimais, je considérais que je venais d'une gauche plus marxiste, plus communiste, plus maoïste à l'époque, et que donc le socialisme à l'africaine, ma foi, ce n'était pas ma tasse de thé. Et donc, j'avais cette relation, j'allais presque dire affectueuse, avec lui, qu'il avait maintenu, et en même temps, une différence philosophique et politique.
Que vous affichiez, que vous exprimiez, vous disiez, vous
pouviez dire. Non, je n'ai jamais été de ce point de vue-là. Je n'ai jamais été ces intellectuels tonitruants qui affichent leur désaccord à tout
point. Non, mais vous auriez pu discuter avec lui de ses oppositions, ses critiques formulées à son.
Mais sur les choses sur lesquelles nous parlions, il était très convaincant sur ces choses-là. Parce qu'il parlait beaucoup de l'art africain. En réalité, c'était cela, son vrai sujet. Et d'ailleurs, mon livre a consisté à dire que pour comprendre la pensée de Senghor, il faut comprendre qu'il est d'abord un philosophe de l'art africain. Et que tout vient de là. Son épistémologie, tous les autres aspects de sa philosophie tournent autour de sa relation à l'art africain. Et par exemple, une conversation que nous avons eue chez lui, dans la villa qui était la sienne, sur la corniche de Dakar, les dents de la mer, comme cette villa est appelée si poétiquement. Je me souviens qu'il m'a montré les objets d'art qui étaient chez lui en m'expliquant un concept dans sa philosophie de l'art africain qu'il appelait parallélisme asymétrique. Concept très difficile, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un parallélisme asymétrique ? Et je me montrais sur des objets précis ce qu'il entendait par là. Le parallélisme asymétrique, c'était à la fois le parallélisme, donc les choses se ressemblent, sont analogues, mais il y a toujours le petit détail qui brise la symétrie et qui brise le parallélisme. Donc cette espèce de brisure, ce moment où le parallélisme s'arrête, c'est véritablement pour lui une caractéristique de l'art africain parce que ça met du rythme. C'est ce qui crée la vie, ce sentiment de vie et de rythme. Et donc, une chose comme celle-là, il n'y avait aucun motif de désaccord. Donc nous pouvions avoir une conversation tout à fait... Où j'écoutais beaucoup plus et il me parlait de beaucoup de choses, de ses enfants, et il m'avait présenté également à son épouse à ce moment-là. Alors, c'est bien plus tard que je me suis mis véritablement à le lire sérieusement, au-delà des formules consacrées et des critiques un peu stéréotypées et téléphonées, comme on dit au football, qui étaient les critiques qui lui étaient adressées. Et ceci a commencé d'abord a commencé en 1996, quand l'Université de Dakar a organisé une grande conférence sur Senghor poète, Senghor philosophe et Senghor homme d'État pour ses 90 ans. L'anniversaire de ses 90 ans. Il est né en 1906. Donc, 1996, j'étais à ce moment-là conseiller du président Abdou Diouf et également professeur à l'université. J'avais la mission d'organiser cette conférence. Et ça a été un moment important. Senghor venait de quitter le pouvoir, avait quitté le pouvoir depuis 1980. Donc, si vous voulez, les controverses politiques s'étaient éteintes d'elles-mêmes. Mes collègues de l'Université de Dakar, comme moi, se trouvaient en situation de lire Senghor ou de le relire d'une manière bien plus apaisée. Et ça a été un moment extraordinaire parce que d'une certaine façon, le monde intellectuel, le monde universitaire sénégalais recevait Senghor parmi lui et le lisait en tant qu'universitaire, en tant que penseur et en tant que philosophe. Et c'était extraordinaire de voir tous ces marxistes de l'université de Dakar qui avaient été fortement opposés à Senghor expliquer pourquoi il était bien trop simpliste de l'accuser de ceci ou de cela, d'être un support de la France, de justifier le néocolonialisme, etc. Toutes choses toutes simples qu'on lui a toujours reprochées, ou alors de répéter à l'envi ces formules dans lesquelles on réduisait sa philosophie sans bien les comprendre, comme sa fameuse formule « l'émotion est nègre, comme la raison est hélène ». Lui a-t-on reproché d'avoir dit là que les Noirs étaient plutôt émotifs et les Blancs plutôt rationnels, alors qu'ils n'avaient jamais rien dit de tel. Et par exemple, sur cet exemple-là, ça va me permettre de répondre à votre question du bergsonisme. Sur cet exemple précis, il suffit de voir ce que Senghor a dit lui-même de sa relation à Bergson. Senghor estimait que le XXe siècle avait véritablement commencé en 1889.
Avec le premier livre de Bergson, issu de sa thèse.
De Bergson, issu de la thèse de Bergson. Il disait, Bergson, en 1889, crée un siècle nouveau, introduit un moment philosophique nouveau avec sa thèse. Et il appelait ça, d'un jeu de mots, la révolution de 1889. Eh bien, si on prend au sérieux ce que Senghor dit lui-même des influences qu'il a subies, on se demande à ce moment-là, qu'est-ce qu'il entend par émotion quand il dit « l'émotion est nègre comme la raison est hélène » Eh bien, il suffit d'ouvrir les deux sources de la morale et de la religion de Bergson pour voir la différence que Bergson établit entre ce qu'il appelle une émotion intellectuelle, l'émotion qui est créatrice, l'émotion qui est sortie de soi pour créer. Cette émotion positive, si vous voulez, créatrice, n'a rien à voir, dit-il, avec son contraire qui est l'émotion que Bergson appelle infra-intellectuelle. Celle-là est une réaction. Quelque chose se passe et je réagis de manière émotive, émotionnelle, à ce qui s'est produit. Donc, dans un cas, j'ai une émotion qui produit une représentation, une œuvre, et dans l'autre cas, j'ai une émotion qui réagit à une représentation. Donc, cette réactivité n'est pas ce dont parle Senghor. Donc quand il dit l'émotion est nègre, c'est-à-dire que la créativité artistique du monde noir est aux œuvres, à l'art classique africain, ce que la raison hélène grecque est à la statuaire gréco-romaine. Et dès lors qu'on a compris cette formule de cette manière, on a rendu justice à Senghor. On l'a véritablement lu et c'est ce qui s'est passé en 1996. Et c'est à partir de cette date-là que ma relation à l'œuvre de Senghor a commencé à changer. Et c'est à partir de cette date-là, je crois, qu'est né ce qui allait devenir par la suite le livre que je lui ai consacré, où je montre qu'au cœur de sa philosophie, et pour bien la comprendre, se trouve l'art africain.
Merci, Souleymane Bachir Diagne. On se retrouve demain.
Ce sera avec plaisir.
Nous parlerons de votre expérience américaine et de l'enseignement aux États-Unis, qui est le vôtre depuis le début des années 2000. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Martin Troadec, réalisation Charlotte Roux, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.